loup et les bêtes. Ça. Elle claque du doigt. Et chaque jour, elle diminue. Demande à tes amis scientifiques. On connaît tes théories. Ce ne sont pas les miennes. Fais ton air de dégoût. Plisse ta bouche, vas-y. Toutes tes grimaces de harpie, fais-les. Sors de la chambre, Jean Lino. Je suis chez moi, dans cette chambre. Je veux être seule. Va dans l'autre. Dis à ce chat de sortir de la chambre. Non, il est chez lui aussi. Il n'est pas chez lui dans ma chambre. Accepte-le un peu, il est triste tout seul. Nous avons déjà eu cette discussion. Le pauvre, pourquoi n'as-tu pas pitié de lui, puisque tu es si sensible à la cause animale? Fiori, Eduardo! Pas la peine de lui crier dessus. Dégage, connard! Le chat regarde Lydie avec morgue et ne bouge pas du tout. Lydie déploie sa jambe et le repousse violemment. Le talon pointu de la Gigi Doll atteint Eduardo au flanc. Il pousse un cri de souffrance. Selon Jean Lino lui-même, le gémissement les ébranle tous les deux, mais il est trop tard. Au moment où Lydie s'incline vers le chat, Jean Lino empoigne sa tignasse libérée des barrettes et lui tord la tête en arrière. Elle essaye de se retourner pour se libérer, mais lui ne sait plus trop ce qu'il fait. Il tient les touffes de cheveux dans ses deux mains et les agite en sens inverse. Elle est effrayée. Il la trouve laide. De sa bouche déformée ne sort aucun mot intelligible, mais des sons suraigus qui l'irritent. Jean Lino veut le silence. Il veut que la gorge ne produise plus de son. Il serre le cou. Lydie se débat, se cabre. Il a trop bu, il est fou. On ne sait pas. Il serre le cou en appuyant avec ses pouces. Il veut qu'elle cède, qu'elle s'aplatisse. Il serre jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Il met du temps à comprendre ce qui vient d'arriver. Il croit d'abord, étant donné la personnalité de Lydie, qu'elle fait semblant d'être morte. Elle a déjà mimé quelques syncopes ou catalepsies par le passé. Il la secoue gentiment, il dit son nom. Il lui dit d'arrêter de faire l'idiote. Il laisse passer un moment dans le silence total pour que Lydie le croie sorti de la pièce. Eduardo joue le jeu, complètement immobile comme savent le faire les fauves. Lydie persiste dans sa fixité. Ce sont ses yeux qui l'alertent. Ils sont ouverts. Il ne croit pas qu'on puisse maintenir ce regard de stupeur invariable. L'idée de la mort le traverse. Lydie est peut-être morte. Il met un doigt sous ses narines. Il ne sent rien, ni chaleur, ni souffle. Il n'a pas serré fort malgré tout. Il approche son visage. Il n'entend rien. Il pince une joue. Il soulève une main. Il fait ses gestes avec terreur et timidité. Les larmes arrivent, il s'effondre. Il m'a dit, je me suis effondré sur son corps et j'ai pleuré. Le tic de bouche est revenu sous forme intensive. Une avancée de toute la dentition pour former un U avec la lèvre inférieure. La nuit était encore noire, je le voyais par la fenêtre. De chez eux, la fenêtre de la cuisine donne sur le vide du ciel. Je me suis demandé si Lydie flottait quelque part et nous regardait par la vitre. De temps en temps me revient cette vieille hantise que les morts nous voient. Après sa mort, la sœur de mon père était revenue endommager le lustre du séjour. On savait que c'était elle parce qu'il s'était promis que le premier disparu des deux irait péter un truc chez l'autre pour attester de sa survivance dans l'au-delà. Tante Micheline avait dit en levant la tête, « Je me ferai bien une de ces tulipes. » Le soir de son enterrement, une opaline du lustre s'était brisée sur la table sans aucune raison. « C'est Tante Micheline, putain! Mais elle est où ?» on avait questionné avec Jeanne. « Ils sont là, ils voient tout, » avait dit ma mère. Après quoi, toutes mes activités illicites avaient été pourries par le regard de Tante Micheline. Où que je me camoufle, elle était là. Avec une copine de collège, on s'écartait dans les fourrés pour se montrer et se